un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder des centres de ma
moto. Zoulou, peut-être.
Je vais attendre. Je regarde bien avec ce Zoulou.
Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché.
Et il est littéralement lâché, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde.
Bonjour tout le monde, samedi 13 juillet, les commissaires de course pour parler de Mâcon-Saint-Étienne. 8e étape du Tour de France, si ça n'est pas cette chose. Avec moi pour en parler ce soir, Charles. Bonsoir Charles.
Salut Ben, bonsoir à tous.
Et également Greg, bonsoir Greg.
Bonsoir tout le monde.
Alors avant de parler d'étape, restez bien pour le pronostic parce que demain il va y avoir de gros points à gagner. Alors, cette étape, elle est partie, on ne s'attendait pas du tout au scénario. Hein. 4 échappés, Terpstra, King, Desmarquis et De Gendt. Et De Gendt qui résiste monstrueusement, héroïquement, au retour de Thibaut Pinot et Julien Lafippe, qui se sont extirpés à la force du jarret du groupe des favoris réglé par Matthews devant Sagan. Eh bien, Charles, pour commencer, avant de parler des réjouissances du final, de ce final qui nous a fait vibrer, cette lutte pour l'échapper, par contre, elle ne nous a pas plu, et ce n'est pas parce que les favoris ont attaqué que ça enlève ce qui s'est passé à tout début d'étape.
Oui, bien entendu, je suis d'accord avec toi, Benjamin. Il ne faut surtout pas avoir une grille de lecture à géométrie variable quand on essaie d'analyser une course. Pardon. C'est toujours un peu dommage, même si on sait que certains experts de Twitter aiment beaucoup le faire et apprécier une étape ou une course en fonction du nom du vainqueur. Mais nous, on va essayer de ne pas tomber dans ce piège-là. Et moi, si je devais résumer, je dirais que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié le final, mais j'étais très déçu du début. On a eu seulement 4 coureurs échappés. Et si on n'avait pas eu cette attaque combinée d'Alaphilippe et Pinot, je me demande ce que les internautes ou les suiveurs, les fans de vélo auraient pensé de cette journée.
Greg, beaucoup ont dit, mais cette échappée, c'était vraiment des costauds, des machines à rouler, ce qui était vrai d'ailleurs totalement. Hein. C'est absolument pas les 4 qu'on va blâmer, certainement pas leur niveau, ils étaient très 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 forts. D'ailleurs, jamais j'aurais pensé que De Gendt pouvait survivre. Non, c'est surtout le fait que ça n'ait quasiment pas relancé derrière, très vite ça a fait rideau, il n'y a que Desmarquis qui a réussi à sortir. Mais pour le reste, non, il n'y a pas eu de bagarre, c'est la première échappée qui est sortie.
Il y a beaucoup d'absents dans cette échappée aussi. On attendait d'autres équipes françaises, on attendait les Arkea aussi, hein, qui auraient pu placer quelqu'un. Par exemple, finalement, voir De Gendt et Desmarquis, ça, à la rigueur, c'était totalement prévisible. Et on a l'impression que voilà, c'est un peu leur rôle. Et que, voilà, c'est comme Ofredo, il part sur le plat. De Gendt et Desmarquis partent dès que c'est un peu plus vallonné. Ça, on a l'impression que c'est un peu... Enfin, ça se devient régulier maintenant, il n'y a quasiment plus que eux finalement. C'est ça la déception. C'est qu'on aurait pu imaginer une échappée à une dizaine de coureurs. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont absentes hein, de ces échappées-là. Et c'est dommage parce qu'on ne les voit pas sinon sur le tour. C'est une occasion loupée parce que c'est une belle étape. On y reviendra, mais c'est un parcours très difficile. Et voilà, ouais, il y avait de quoi. Hein.
Surtout qu'il suffisait d'être au final en première ligne pour être dans l'échappée. On parle souvent, c'est difficile d'être dans une échappée du Tour de France. Là, pour le coup, cette année, il faut être dans les 2-3 premières attaques et c'est bon. Et ensuite, le problème également dans l'échappée, Greg, c'est que le sprint intermédiaire, ils s'entendent, les montées, ils s'entendent. Et il n'y a que dans le final qu'on les voit se battre parce que sinon, tout était cousu de fil blanc.
À 4, c'est quand même très difficile sur 200 km de tenir vu le parcours. Et c'est pour ça que peut-être avec 2-3 renforts de plus, ça aurait été un peu plus de chance et ça aurait été un peu plus de bagarre entre eux. Ça aurait été une belle occasion justement hein, pour ceux qui passent bien les bosses d'être proche de la victoire d'étape.
Alors avant de parler du final, Charles, une étape qui va quand même rester énormément dans les jambes parce que les 4 de devant, nos 4 gros moteurs, ils n'ont pas amusé la galerie, surtout les deux derniers, Desmarquis et De Gendt. Astana s'est mis à plat ventre pour revenir sur eux, Education First également. Et c'était une étape vraiment très compliquée niveau parcours. On a pu voir notamment à Sagan qui s'est accroché en queue de peloton, qui s'est vraiment fait la peau, que ce sont des parcours qui vont compter.
Ouais, je pense que tu l'as très bien dit. C'est une étape qui va forcément rester dans les jambes parce que le parcours était très difficile et ça s'est couru à un rythme assez soutenu. Mais moi, je voulais quand même revenir rapidement, si tu veux bien, Benjamin, sur cette échappée du départ. Enfin, sans tomber dans la caricature non plus, comme l'a peut-être un petit peu fait Johan Ofredo hier. Mais enfin, moi, je me demande, enfin, vraiment, il y a des mecs. Tu te demandes ce qu'ils viennent faire sur le Tour de France. En fait, on comprend qu'il y ait beaucoup de coureurs qui ont un rôle d'équipier. Mais certains qui n'ont pas de leader, on se demande pourquoi ils sont là et quel est leur objectif en fait, sur la grande boucle. Parce que quand ça bataille, on comprend, on n'est pas débile. Enfin, tu ne peux pas être dans l'échappée à tous les coups. Et le vélo, ce n'est pas Pro Cycling Manager. Mais quand ça bataille pas, comment expliquer qu'il y ait des coureurs d'équipe qui sont invités ou qui n'ont pas de vrai leader pour le général, comment expliquer que ces équipes ou que ces coureurs ne soient pas présents à l'avant? Enfin, moi, je m'interroge vraiment. Autant hier, on pouvait blâmer le parcours, mais là, aujourd'hui, c'est pas possible.
Surtout que je me souviens qu'à l'époque de Paris-Nice, on avait dit Arkea mérite sa sélection, parce qu'au-delà des sprints de Cocard, Vittel Concept ne s'est pas montré. Mais au final, on retombe dans les mêmes travers qu'on a critiqués. Alors, c'est vrai que souvent, on tombe sur Vittel Concept, je pense qu'il y a certaines raisons. Mais là, quand même, ils auraient pas fait pire. Ils auraient même eu un sprinter. On est d'accord.
Ah bah clairement, là, je vois Corentin qui nomme Rezuserada, par exemple. C'est vrai que c'est le genre de mec qui était très en forme au mois de juin et qu'on aurait pu attendre dans l'échappée aujourd'hui. Quoi. Après, c'est pas pour le blâmer lui, hein, c'est juste un exemple parce que je le vois sur le chat. Mais,
Est-ce qu'il n'est pas dans la liste des malades de Cofidis?
Alors, peut-être il est pas bien, mais encore une fois, il n'y a pas eu de bagarre. Donc bon, après, je peux comprendre si tu es malade, même s'il n'y a pas besoin de bagarrer, tu ne vas pas en échapper, tu préfères regarder tes forces, on est d'accord. D'ailleurs, en parlant des coureurs malades, mais Christophe Laporte a abandonné. Et Johan Efredo s'est vraiment fait la peau pour rentrer. Il a même repris Lars Bak qui avait été lâché plus tard que lui. Il est dans les délais, chapeau, et on espère qu'il continuera parce que bah, il mérite, quoi, hein, avec tout ce qu'il se bat, ça serait bien pour lui qu'il arrive à terminer. Maintenant, une étape, donc, comme on l'a dit, qui a fait très mal. Gros tempo, Astana et Education First. Mais Greg, c'est pas eux qui ont tiré les marrons du feu.
Eh bien oui, alors c'est vrai que c'est eux qui ont un peu relancé l'étape, parce que les échappés, finalement, avaient une avance assez confortable. Hein, c'est près de 4 minutes à quoi, 40 ou 50 km de l'arrivée. Donc, ouais. C'est à peu près ça, je crois.
Peut-être un peu plus loin de l'arrivée, mais oui.
Enfin, dans ces eaux-là, et on se disait quand même qu'avec De Gendt et De Marquis, ils avaient des chances d'aller au bout. Et d'un coup, les Astana, puis les Education First ont roulé très fort. L'écart est tombé progressivement. Mais à l'arrivée, justement, ben, les grands absents sont eux, hein, parce que c'est Alaphilippe, ce qui était attendu, hein, qui a mis dans la dernière côte, qui a attaqué justement parce qu'il y a des points bonus, parce qu'il y avait une descente à faire et des secondes à rattraper pour le maillot jaune. C'est lui qui a attaqué et seul Thibaut Pinot a pu suivre. Et je pense que là, tout le monde s'est levé du canapé pour devant cette attaque avec Pinot qui suit derrière. Quand on voit derrière que Fuglsang n'y arrive pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont frissonné dans leur canapé.
Ouais. D'ailleurs, avant de passer la parole à Charles, c'est sprint bonification qu'on avait un peu raillé l'an dernier parce qu'il n'y avait que les Ineos, enfin que les Sky, pardon, qui les faisaient cette année. Ça déclenche pas mal de choses. Au final, c'est pas mal. Peut-être que ça continuera pas, mais pour moi, c'est bien. Charles.
Ouais. Juste avant de rebondir sur la performance, sur la super performance de nos deux coureurs français, je voulais avoir votre avis sur justement Astana et Fuglsang. Enfin. Peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que Fuglsang, il n'a pas du tout les mêmes jambes qu'au printemps et que c'est peut-être ça qui est compliqué. Justement, on essaye, on est offensif chez Astana, mais on se rend compte que bah, derrière, ça ne suit pas forcément.
Ce qui est étonnant, c'est qu'ils avaient roulé, hein, probablement pour lui, parce que même Lutsenko avait pris des relais. Donc au départ, on se demandait, est-ce qu'il roule pour Fuglsang ou Lutsenko? Puis Lutsenko a pris des relais. Et il est dans la roue de Pinot, hein, si on revoit les images. C'est lui, ouais, qui est juste derrière. Et honnêtement, on savait tous qu'Alaphilippe allait tenter quelque chose, donc c'est pas non plus une surprise. Fallait s'y attendre et fallait être prêt à embrayer derrière ou pas. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire qu'il est bien placé, Il sait qu'Alaphilippe va attaquer, mais il n'a pas pu suivre.
D'ailleurs, je crois qu'il y a Lutsenko qui se retourne vers lui au moment où ça part. Et Fuglsang accélère. Ça casse le groupe en deux parce que derrière, en fait, même si on voit à l'arrivée qu'ils sont une trentaine, le groupe était bien moins conséquent en fait en haut de la bosse. D'ailleurs, Guérin Thomas qui avait fait un retour express, les Ineos qui ont superbement géré cette chute. Alors Thomas apparemment n'est pas tombé, il a juste déraillé, mais ben, ils sont repartis. C'était de la Formule 1 quoi. Hein. L'arrêt au stand était ultra rapide. Chapeau à eux. Il venait de faire un effort, il n'a pas pu accompagner ces 10-15 coureurs qui sont sortis derrière Pinot à Alaphilippe, ça s'est regroupé derrière, mais en effet Fuglsang a essayé d'y aller et il n'a pas pu. Alors pour le moment on parle surtout d'efforts explosifs de puncher, ce n'est pas les mêmes efforts qui seront demandés lorsqu'il y aura le Tourmalet ou autre, mais pour le moment Charles, force est de constater que même si c'est certains types d'efforts, bah, le plus fort des favoris, puisque je vais quand même considérer qu'Alaphilippe est à part, bah, c'est Pinot, exception faite de Guérin Thomas, qu'on ne peut pas juger sur ce moment-là.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que depuis une semaine, on s'aperçoit que physiquement, en tout cas, sans parler des qualités de chacun, c'est Thibaut Pinot et Guérin Thomas qui semblent être les deux plus forts, en tout cas. Et. Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Thibaut Pinot. Si on m'avait dit avant le Tour de France, même si j'avais envie d'y croire, que Thibaut Pinot serait virtuellement premier, parce que tu l'as dit, on se doit d'écarter quand même Julien Alaphilippe dans la lutte pour le maillot jaune à Paris. Thibaut Pinot est premier virtuel. Il a, si je ne me trompe pas, une vingtaine de secondes, c'est ça les gars? Non, une trentaine de secondes d'avance.
Je sais qu'il faudrait que il a exact, au classement général, Thibaut Pinot, il a tout simplement, alors sur Bennett, 17 secondes, 19 secondes sur Thomas, et 23 secondes sur Egan Bernal.
19 secondes ouais, sur Thomas, 23 sur Bernal. Donc au final, virtuellement, pour l'instant, c'est lui qui est en tête, c'est lui qui est le mieux placé, alors qu'on a eu un chrono par équipe qui était censé avantager le team Ineos. Donc bah, pour l'instant, tout se passe comme sur des roulettes pour Thibaut Pinot. En fait, il a été capable de suivre Julien Alaphilippe. Ça a été le seul des favoris à le faire, vous l'avez très bien souligné. Il va à la chasse au bonif, on sent que physiquement il est bon. Je ne sais pas si vous avez repéré que même dans la descente, dans les descentes, il s'arrachait aujourd'hui, que même dans les faux plats où Alaphilippe lui faisait bien mal, il arrivait à tenir la roue. Et moi, je trouvais que sa performance physique était vraiment impressionnante. Et s'il arrive à tenir ce niveau-là pendant 3 semaines, je pense sincèrement qu'il peut gagner le Tour de France.
Oui, il était numéro 2. Pardon. Oui, juste pour dire, le gros numéro d'Alaphilippe, hein, que ce soit dans la montée ou dans la descente, c'est...
Mais on voit d'ailleurs qu'il voulait amener Pinot également. On le voit plusieurs fois se retourner sur Thibaut Pinot pour voir s'il suit. Peut-être parce qu'il se disait également qu'il n'arriverait pas à finir seul. Mais je trouvais qu'il y avait une vraie bonne entente entre les deux. Et on rappelle également que Thibaut Pinot a sacrifié ses chances aux Mondiaux pour Alaphilippe, pour que celui-ci tente de l'emporter. Malheureusement, Alaphilippe a coincé. Et je pense qu'Alaphilippe l'a pas oublié ça. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'Alaphilippe avait la volonté, en plus de reprendre le maillot jaune, d'amener Thibaut Pinot dans son sillage. Alors peut-être c'est une lecture que j'ai de la course qui est fausse, mais j'ai vraiment eu cette impression. Alors par contre, j'en vois sur le chat qui disent « Thomas est bien tombé ». Vous êtes vraiment sûr qu'il est tombé? Parce que aux dernières nouvelles, moi j'avais juste eu comme info qu'il avait été gêné par la chute, mais qu'il avait mis pied à terre et qu'il avait déraillé, mais qu'il n'était pas tombé. Et j'en vois deux, Drakiv et Spal 85, qui disent qu'il est tombé. Donc,
il a peut-être déchaussé, parce qu'il y a un Ineos qui tombe et un qui déchausse.
Il est tombé d'après le communiqué du team Ineos, qui est tombé il y a quelques minutes.
Ça,
sans gravité.
Sans gravité.
Non, mais ça plus ça, après on dit sans gravité, de toute façon, ils vont pas dire qu'il s'est fait mal, mais ça fait déjà deux chutes depuis le début du Tour de France. Bon, après, Chris Froome avait eu pas mal de soucis, même si c'était pas forcément des chutes en 2016. Mais c'est pas le Geraint Thomas qui marchait sur l'eau et qui évitait tout de l'an passé. Et d'ailleurs, je crois qu'il a pas encore pris de bonification depuis le début de la course. Après, mais peut-être qu'il se sent plus fort.
Plus que l'emmener dans son sillage, Benjamin, je rebondis sur quelque chose qui m'a marqué et que j'avais oublié. C'est qu'à l'arrivée, Alaphilippe n'a pas cherché à faire le sprint à Thibaut Pinot et lui laisse donc 2 secondes de bonification supplémentaire. Là, peut-être qu'il y a un côté un peu franco-français qui joue. Il se dit, bah, tiens, si je peux lui laisser 2 secondes, je lui laisse. Quoi.
Bah, ils avaient tous les deux en plus à y gagner.
Ah, clairement, oui.
Donc, mais en plus, je crois qu'ils se sont parlé plusieurs fois. Hein. Si vous revoyez les images, vous verrez qu'ils s'échangent quelques mots. Probablement qu'ils s'encouragent, mais il y a, ouais, il y a une complicité, clairement. Alaphilippe aurait-il pu gagner sans Pinot?
Reprendre le maillot, il n'a pas gagné.
Oui, aurait-il, je pense qu'aurait-il pu prendre le maillot sans Pinot? Je pense.
Oui, je pense, parce que Chicone est, enfin, fini à la fin, je crois, du peloton, enfin, du groupe des favoris.
Je pense pas qu'il aurait été rattrapé, mais plutôt que 20 secondes, il en aurait pu avoir que 4 ou 5. En tous les cas, si on parle qu'il n'a pas gagné, Greg, c'est quand même... Je reviens vite fait sur l'échappée, petite parenthèse avant de revenir sur les favoris. Thomas De Gendt, quel numéro, encore une fois.
C'est quand même un phénomène, c'est un coureur assez imprévisible qui part toujours dans les échappées, souvent au long cours, souvent sur des parcours les plus vallonnés, les plus difficiles. Hein. On l'a vu aussi déjà gagner sur le Tour des étapes très compliquées. C'est le Ventoux, je crois, qu'il avait fait il y a quelques années.
Oui, c'était quand le...
Ouais, c'est le Chalet
Renard.
Voilà.
Donc voilà, et vraiment jusqu'au bout finalement du suspense, on est allé aujourd'hui parce que il y a eu finalement très peu d'écart et il fallait qu'il passe la dernière bosse avec 15-20 secondes d'avance et il les a tenus, même si derrière, il faut quand même rappeler qu'Alaphilippe, il a vraiment attaqué très fort et la descente, il était allé très vite. Hein. Alaphilippe, c'est peut-être un des meilleurs en descente du peloton, il a réussi à résister. Enfin, dans la gestion de l'effort, De Gendt est quand même assez impressionnant.
Tout à fait. Charles, tu veux rajouter un truc sur le Belge?
Non, juste rapidement, en fait, par rapport au scénario, j'y pensais là tout à coup quand Greg parlait, ça m'a fait penser à Milan-San Remo, en fait, où on s'emmerde comme c'est pas permis pendant les trois quarts de la course. Mais à la fin, on a une intensité folle, en fait. Et j'ai retrouvé un peu cette intensité de malade qu'on retrouve souvent sur la Primavera. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais...
Moi, j'ai commencé à monter en pression quand Astana et Education First ont roulé. Parce que je me doutais que ça allait attaquer dans la bosse. D'ailleurs, que les Astana n'attaquent pas. Peut-être parce que justement, Geraint Thomas était tombé. Ou parce que Woods était tombé, que les Education First roulaient pour lui. J'ai un peu rebaissé quand Alaphilippe... En plus, j'ai vu Pinot immédiatement dans sa roue et sorti là. Mais j'étais pas si fan, en fait. J'étais surtout stressé. J'avais peur... que ça fasse un coup d'épée dans l'eau comme tant de fois.
On est censé être objectif, mais moi j'avoue avoir poussé à fond sur mon canapé et gueuler un peu.
Oui, bon après, on sait que je suis les Français, donc forcément, opération générale, Alaphilippe qui récupère le maillot jaune, les deux qui s'entendent et qui ne se regardent pas, derrière, il y a eu un moment de flottement, sans doute ce moment de flottement d'ailleurs qui était la conséquence du problème Ineos. Parce que les Ineos, quoi qu'on puisse dire sur eux, eh bien, ils savent exactement comment réagir dans cette situation. Et le problème, c'est que Geraint Thomas, qui a y rentre, il n'y a que Bernal avec lui. Il n'a plus d'équipier, puisque ceux-ci se sont sacrifiés pour le ramener. D'ailleurs, on parle de Ineos qui cache son jeu ou quoi que ce soit. J'ai trouvé quand même qu'ils ont vite explosé les Ineos pour ramener Thomas. Hein.
Mais je pense, pour Ineos, je pense que c'est des étapes qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, vu le parcours, sa monte et sa descente, des petites routes, que les grosses ascensions qu'on va avoir en fin de tour, type Val Thorens ou Tignes. Je pense que pour eux, ils craignent beaucoup plus ce type d'étape que les grandes ascensions qu'on va avoir en fin de tour.
Qui sont beaucoup moins facilement contrôlables, mais de toute façon, on le dit depuis quelques jours quand même, et vous êtes de plus en plus nombreux aussi à le dire sur le chat, pardon, on a quand même l'impression que le team Ineos est moins fort que les années passées. On se rappelle la planche des belles filles, Pouls qui est lâché rapidement, enfin rapidement non, mais rapidement par rapport à d'habitude, Van Baarle qui pète aussi, là il n'y avait plus grand monde non plus, enfin bon c'est...
Mais là, Pouls quand même, je trouve qu'il tient pas longtemps, alors c'est un gros rythme qui l'amène. Mais on rappelle que la côte fait 2 km, il prend son relais quasi au pied de la bosse, et il fait même pas 1 km.
Je me dis que moi, le Pouls des grands jours, tu vois, l'aurait ramené dans le peloton aujourd'hui, c'est ça le truc.
Ouais, ça s'appelait comment Peratayat, c'est ça En 2017, quand Froome crève et qu'il le ramène, mais ils tiennent bien plus. Bon, après, peut-être sur une ascension plus régulière, il serait revenu. Mais bon. Là, Thibaut qui nous dit Pouls s'est relevé exprès jeudi. Ouais, mais là, il ne s'est pas relevé exprès. Il a fait ce qu'il a pu. Or, Pouls, avec Katowski, c'est celui qui doit être le plus fort sur un profil comme ça. Hein. Sur de la moyenne montagne, mais c'est des gars qui, à Liège-Bastogne-Liège, brillent.
Mais tu l'as dit, Benjamin, je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a pas à chier. Enfin, il manque un étage de la fusée et c'est Chris Froome. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas le remplacer.
C'est pas l'étage du bas. Mais au-delà de l'étage de la fusée, bon après peut-être ils vont écraser le Tour de France, hein, on verra bien.
Oui, après, méfions-nous.
Mais c'est pas possible. Hein.
Froome, il y avait son aura de. Déjà, c'est un cannibale, il veut tout gagner. Et c'est le vainqueur, multiple vainqueur de Tour de France.
Puis Froome fait peur psychologiquement à ses adversaires. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, avec Chris Froome dans le peloton et en tant que leader de la Sky, je pense pas que Thibaut Pinot. Ils sortent dans la route à la Philippe comme ça. Je pense qu'on n'aurait pas pris le risque, tu vois, par exemple. Et là, on se permet des choses parce qu'on pense que Geraint Thomas donne moins de garanties, j'imagine, et idem pour Egan Bernal.
Tout à fait. Après, maintenant, je veux dire peut-être un gros mot, mais celui des leaders qui courent comme les précédents vainqueurs du Tour de France les années passées, c'est Thibaut Pinot, qui va chercher les bonifications, qui perd quasi pas de temps sur les autres favoris et qui en prend même généralement sur tout le monde. Ça me rappelle le. Attention, hein, on n'a pas fait la montagne ou quoi que ce soit, restons.
Il me rappelle le Geraint Thomas 2018, moi, clairement. Enfin,
ouais, petit à petit. Mais Froome en 2016 qui attaque dans la descente de Pays Ressources. D'ailleurs, puis il reprend un peu de temps et il fait la bordure et hop, il reprend un peu de temps. Et chaque fois, on dit ah merde, ils vont. Et finalement. J'ai tellement envie de voir un Français vainqueur du Tour de France que j'ai envie d'y croire. Mais alors, Jean-Claude Dufdus qui nous dit « Moi, Froome ne me manque pas du tout ». Mais je ne crois pas qu'il manque à beaucoup de personnes, mais il manque aux Ineos. Donc, on verra plus tard comment dans la haute montagne ça va se faire. Mais avant la haute montagne, alors que petit à petit le classement général s'éclaircit, là, on a perdu Woods, c'est un outsider, c'est pas un favori. Vincenzo Nibali, il vient de partir à plus de. Il est quasiment à 4 minutes. Il est à plus de 6 minutes maintenant. Tuns, on savait qu'il ferait rayon général, mais même pour le maillot jaune, c'est fini. Et petit à petit, on commence à avoir de moins en moins de coureurs pour le maillot jaune. On voit petit à petit, c'est une course d'élimination par l'arrière. Et ça pourrait bien continuer demain. Demain, c'est Saint-Etienne-Brioude. Brioude, Romain Bardet. Et surtout, on est le 14 juillet, les Français vont vouloir briller. C'est une étape un peu dans le style d'aujourd'hui, moins longue, bien moins longue, puisqu'elle ne fait que 170 km. Seulement 3 côtes référencées, mais on sait que dans les massifs intermédiaires, eh bien, Gouvenou aime ne pas répertorier toutes les côtes qui le mériteraient pour surprendre les coureurs. On va voir le mur d'Aurec sur Loire, une saloperie de plus de 3 km à 11% de moyenne. La côte de Guillaumanche, 7,8 km à 4,1%, bon, ça passe gros plateau. Et surtout la côte de Saint-Just, qui se trouve dont le sommet est à 13 km de l'arrivée. Il y a une petite remontée derrière qui entrecoupe une descente. 3,6 km à 7,2%. Avec des bonifications au sommet. Il me paraît bizarre, Greg, si ça ne bouge pas sur cette étape encore avec ce qui s'est passé aujourd'hui.
Alors là aussi, c'est un peu difficile de voir le scénario. On verra qui va partir dans l'échappée. On espère aussi quand même une échappée peut-être un peu plus nombreuse. Avec peut-être un peu plus de coureurs français aussi. Et après, chez les favoris, comment va se dérouler? Ça va être intéressant. Est-ce que les Astana et les Education First vont rouler encore? Qui va rouler derrière les échappés? Parce que finalement, ça va arranger certains que l'échappée aille peut-être au bout. Donc, ça aussi, ça va être à suivre. Et qui va essayer de reprendre du temps dans la dernière côte aussi chez les favoris? Parce que peut-être que dans la montée, dans la descente, il y a moyen de grappiller quelques secondes. Et notamment ceux qui sont loin. Et peut-être quelqu'un aussi qui est né à Brioude.
Oh ben, je pense que Charles, si Bardet ne tente rien aujourd'hui, ça serait quand même navrant.
Ouais, n'en déplaise encore une fois aux experts Twitter. Si Bardet ne tente rien dans la dernière montée, si on n'a pas 15 à 20 mecs devant en début d'étape, ça sera une grosse déception et on ne comprendra pas trop pourquoi. Enfin, quand même, là, les gens sont... Il y a beaucoup de coureurs qui sont maintenant très loin au général. Vous les avez cités, il y a des mecs comme Woods, Nibali, Tuns qui ont perdu du temps aujourd'hui et qui vont pouvoir commencer à aller à la chasse aux étapes. Donc, si on se retrouve avec quatre mecs devant qui font l'étape, ce serait quand même une énorme déception, d'autant plus que demain, c'est le 14 juillet, la fête nationale.
Donc, normalement, on doit avoir les Français tout, et les équipes françaises devant. Ça, ça s'est toujours passé comme ça.
Normalement, on s'attend quand même, à part Groupama FDJ, parce que forcément, l'objectif, c'est d'être groupé autour de Thibaut Pinot. Mais même chez AG2R, vu que maintenant Romain Bardet pointe quand même à 2 minutes 30 de Thibaut au général, j'espère voir des gars comme Galopin s'il va mieux, mais aussi pourquoi pas Cosnefroy ou Viermo tenter d'aller devant et de gagner une étape. Même Oliver Nassen, enfin, va falloir à un moment songer à sauver le tour. En plus, on arrive chez Romain Bardet, donc AG2R, je pense, quand on combine ça au 14 juillet, se doit d'être actrice de la course demain. Et il en va de même pour les équipes françaises, pardon, je finis là-dessus, qui ont loupé l'échappée aujourd'hui.
Alors, je me permets de répondre à quelques trucs sur le chat. Donc, Nico Lille qui dit « Bardet, il y a un souci. Il n'était pas bien, on l'a tous vu, hein, sur la planche des belles filles. Et quand tu arrives dans le rouge, complètement explosé au pied d'une bosse à 20 pour 1, un passage à 20-24%, en plus pas asphalté, ben, t'exploses complètement et tu ne peux pas avancer. » Donc ça aurait été une arrivée à 8%, il aurait perdu moins, mais là forcément il a complètement explosé. Est-ce que c'était un jour sans ou est-ce qu'il est moins fort? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais aujourd'hui il était dans le groupe des 10-15 qui est sorti derrière le duo français, donc ça a l'air d'aller un peu mieux. S'il se retrouve dans ce groupe, c'est qu'il doit normalement bouger, qu'il doit pouvoir bouger de même. David Digan qui dit « On parle de Bardet, mais intrinsèquement, Pinot est doué, contrairement à Bardet qui bosse. » Bon, là, c'est très caricatural. Bardet est extrêmement doué. Tu ne fais pas second et troisième Tour de France rien qu'en faisant du travail. C'est quelqu'un de très doué. Après, oui, en effet, David, je pense que physiquement, intrinsèquement, Pinot est plus doué que Bardet. Mais Pinot est également un gros bosseur. Oui, Charles, je crois que tu
veux ajouter quelque chose. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans la caricature avec Bardet. Et Yakari le dit très bien, on peut critiquer, mais il ne faut pas non plus tomber dans le Bardet bashing. Moi, la seule différence...
Je ne suis jamais tombé dans le Bardet bashing.
Toi, non, mais moi, parfois, des fois. Donc, c'est pour ça que moi-même, je me permets de mettre un bémol par rapport à ça. Moi, la seule différence que je donnerais aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais vu Romain Bardet, malheureusement, être le plus fort sur une course physiquement, et cette semaine en tout cas nous prouve que ça peut arriver que Thibaut Pinot soit le plus fort d'une course, même si on est loin du terme, je vous l'accorde tout à fait.
Mais c'est pour ça que, en plus c'est le 14 juillet, alors tout à l'heure tu disais Groupama on ne les verra pas, c'est peut-être la seule étape où Marc Madiot pourrait autoriser un ou deux coureurs à aller dans l'échappée. Parce qu'on sait quelle importance il accorde au 14 juillet, au maillot national.
David Gaudu peut-être.
Donc, il est trop près, David Gaudu.
Ouais, Gaudu, je vois pas. Je vois plus un Roux ou un Mollard, par exemple. On verra bien, mais également parce que c'est le 14 juillet, il y a des bonifs à prendre si l'échappée n'est pas trop loin devant. Non, je pense qu'on peut voir des Barguil, des...
Des Calmejean, ouais.
Mais même, je parle dans la dernière ascension, je pense à Barguil, mais même Pinot, quant à la forme, il ne faut pas hésiter à retenter, même à la Philippe pour conserver pour agrandir son avance. Il ne faut pas hésiter surtout... Chris Froome le montrait bien, je suis très critique envers lui, mais jamais sur sa volonté de battant, de cannibale, je dis souvent, c'est que quand il peut avancer les autres, il ne s'en prive pas. Et là, s'ils sentent qu'ils ont les jambes, il faut y aller. Il faut y aller pour marquer le coup psychologiquement. Non, tu ne penses pas, Greg ?
Ben, surtout que les étapes suivantes sont quand même plus tranquilles.
Oui.
C'est-à-dire donc,
ils auront le temps de regarder de si beaux paysages.
Voilà, donc il y a encore une étape lundi, mais ça sera plat, et après il y a la journée de repos. Donc c'est peut-être aussi le moment de grappiller les secondes, là qu'on a des occasions sur des routes pas faciles. Prendre du temps, il faut les prendre maintenant, parce qu'après il y a le contre-la-montre et ça risque de faire mal à beaucoup, je pense, contre la montre de Pau. C'est pour prendre une minute minimum dans la tête par Geraint Thomas. C'est maintenant qu'il faut prendre les secondes et il ne faudra pas se plaindre après, dire « Ah ben oui, on est déjà à 3 minutes ». Parce que moi, je crains beaucoup ce contre-la-montre de Pau qui douche un peu les enthousiasmes.
Charles.
Ouais, carrément. Je rejoins à 200% ce que dit Greg. Bon, Thibaut Pinot court à la perfection pour l'instant, mais si demain, il a moyen d'enfoncer encore un petit peu plus le clou et d'aller faire la bonif, si jamais il n'y a plus d'échapper à ce moment-là, de gratter quelques secondes au sommet de la dernière bosse, et de pourquoi pas refaire un écart dans la descente qu'il fasse. Hein. Pour l'instant, on l'a dit, il a une vingtaine de secondes d'avance. S'il peut en remettre encore 10 ou 15, ça sera toujours un petit matelas en vue du chrono. Et s'il perd la minute, il restera dans le jeu, quoi. Donc, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, comme on dit. On a vu Thomas le faire l'an passé, on a vu Froome à plusieurs reprises. Il n'y a pas de raison que les Français se privent de ça aussi.
Et j'ajouterais pour FJPAL, je crois que c'est RBL qui dit Yates a fait ça, il a explosé. Je crois que Yates, c'est surtout que la haute montagne, il ne la digère pas du tout et qu'il a commencé à être un peu malade en plus. Et il a quand même explosé.
Parce que Thomas l'a fait l'an dernier et il a gagné le tour. Donc il y a des, voilà. Enfin, il y a des exemples dans les deux sens. Quoi.
Donc messieurs, on va passer à la partie pronostic. Combien il perd Pinot sur Thomas au chrono? Ouais, je pense. Après, avoir l'état de forme, mais on en parlera probablement la veille du chrono. Après, donc c'est l'état de bannière de Bigorre, je crois. On en parlera à ce moment-là. En attendant, les pronostics. Donc pour demain, donc ben, le vainqueur de l'étape qu'on a d'habitude, mais aussi puisqu'on est le 14 juillet. On va pouvoir gagner non pas 2 points, mais 4 points si on trouve juste. Donc, je vais demander le vainqueur de l'étape, mais également les 3 premiers coureurs français sur l'étape de demain. Les 3 premiers, sachant que si vous avez un nom, mais qu'il n'est pas dans la position où il finit, on va dire que vous dites à la Philippe un second, mais il fait 3e, vous marquez 0,5 points.
Ça devient compliqué ton jeu là.
Ah, écoute, c'est le 14 juillet ou c'est pas le 14 juillet. Pendant que vous réfléchissez, messieurs. Un petit point sur le classement, donc Théo 4 points, toujours en tête. Mais derrière, ça se rapproche. Donc il y a Alexandre Payou et Alexandre Rollet à 3 points, accompagnés de nos deux commissaires qui sont avec moi, donc Greg et Charles. Tous à 3 points. Ensuite, à 2 points, il y a Pierre Trentutroyon, Grégory Rifleux, Kef, Feu, G, Max, donc notre commissaire, et Olivier C. Après, on est plusieurs autres à 1 point. Donc, Charles.
Pour l'étape.
Vainqueur d'étape.
Putain, j'hésite entre Nibali et Woods. Et Michael Woods parce qu'il est plus loin en général.
Et les 3 premiers Français.
Et les 3 premiers.
Attention, Français. L'ordre compte.
L'ordre compte. Bon, ça veut dire que si je mets Woods, je mise sur une échappée. C'est pas facile. Hein, c'est pas facile, non. Benjamin.
Allez, je te laisse réfléchir. Greg, le vainqueur d'étape.
Je vois une échappée, je vais dire Rui Costa.
D'accord.
Allez, je vais dire. Je vais tenter la grosse cote comme il y a beaucoup de points en jeu. Je veux dire Elie Gébert, Rudy Mollard et Guillaume Martin.
Greg.
Je vais dire Pinot, Barguil, Alaphilippe.
Alaphilippe, pour ma part, vainqueur d'étape, je vais mettre Bardet. Et donc, dans les 3 premiers Français, Bardet, Guillaume Martin et Alaphilippe. Voilà, donc pour ceux qui font le pronostic, merci de bien me mettre en un seul message, hein, vu que c'est compliqué, vu qu'il y a beaucoup de noms à mettre. Donc, je vois des Woods vainqueurs, Mollard, Gesbert et Turgis.
Turgis, c'est bien vu, ça aussi, j'avais pas pensé. Ouais. Hein.
Barguil, Pinot, Alaphilippe. Barguil à la Philippine, c'est vrai que Barguil, je l'ai pas mis, mais.
Bah, Barguil, normalement, demain, avec son maillot de champion France, j'imagine.
En plus, il va vite au sprint, en plus.
Ah ouais, c'est con, il est un peu trop près au général.
Ouais, mais après, s'il sort dans la dernière bosse.
Bah, après, comme il est jamais plus de 3 minutes, bon, ça va peut-être le faire aussi.
Et puis, il est pas trop loin au général, mais bon, qui sait qui va rouler. Si c'est pas les deux Koenig qui vont pouvoir assurer sur un terrain comme ça.
Je pense qu'il fait peur, Barguil, moi, c'est pour ça que
C'est possible, c'est vrai qu'il semble bien, on l'a vu remonter plusieurs fois.
Enfin, c'est le genre de mec, tu lui laisses pas 4 minutes d'avance, quoi, en général.
Surtout qu'en plus, lui, le maillot jaune, ça lui quadruple ses forces. Donc voilà, bah, écoutez, vous savez tout maintenant. On vous dit à demain, en espérant qu'on fasse cocorico pour la deuxième fois de ce Tour de France. Un Français en jaune, deux Français sur le podium du classement général du Tour de France, pourvu que ça dure. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Ciao, ciao.
Bonne soirée.
Au revoir. Demain.